Je pense que Monsieur Bizet, là, ça doit lui faire plaisir d'entendre ça, parce que là, c'est du grand Barney Kessel. Hein. Et sa fin de carrière, des fois, c'était pas terrible. Mais là, c'est merveilleux. Qu'est-ce qu'il joue bien.
Alors, en 1947, Barney Kessel rejoint la troupe du Jazz at the Philharmonic de Norman Granz et accompagne Charlie Parker lors de l'enregistrement du fameux Relaxing at Camarillo. En 52-53, il accomplit une longue tournée comme guitariste du trio d'Oscar Peterson. Et sous le nom des Paul Winners, réunissant Barney Kessel, le contrebassiste Ray Brown et le batteur Chellyman, il enregistre 4 albums entre 57 et 60, qui vont connaître un franc succès. Alors, Barney Kessel, il est capable de quand même s'adapter à tous les styles. On peut l'entendre avec des musiciens, aussi différents que Louis Armstrong, Nat King Cole, Coleman Hawkins, Roy Eldridge, Lionel Hampton, Ben Webster, Woody Herman, George Benson et même Ornette Coleman. Et puis aussi, on a vu Charlie Parker. Il est aussi un exceptionnel accompagnateur de chanteuses et on a pu l'entendre aux côtés de Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, Anita O'Day ou encore Julie London. C'est lui d'ailleurs qui tient la guitare sur le tube de cette dernière dans
Cry Me River.
Ah, ça, c'est une chanson qui fait pleurer chaud, ça.
Ah, ben là, c'est très beau le duo. Ouais, très, très beau.
Donc voilà, alors ben, on va vous proposer évidemment d'écouter Relaxing at Camarillo avec donc Charlie Parker, Benny Carter, Ozzy Osbourne et donc. Barney Kessel. Voilà, si je trouve le bon morceau. Voilà. Thank you.
dans une composition de Charlie Parker. Et mais là, eh ben, il joue toujours vraiment très très bien avec Charlie Parker, Barney Kessel.
Alors, dans les années 60, il se livre à des activités un peu plus commerciales. Donc, il va faire un peu de pop music, des musiques de films, etc. Il accompagne notamment les Beach Boys dans leur album Pet Sound.
Ah bah oui,
en 66.
Les nouveaux albums des Beach Boys.
Et bon, il va revenir un peu au jazz quand même. Et on va l'entendre entre autres dans le quintet Great Guitars, avec ses confrères Charlie Bird et Herb Ellis. Et en 92, il est victime d'une grave attaque cérébrale et doit restreindre son activité, ce qui l'amène à côté de sérieux problèmes financiers. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, Sacha Distel organise en novembre 2002, au Petit Journal Montparnasse à Paris, un gala exceptionnel de soutien. Et Barney Kessel, c'est un en 2004.
Ils étaient très potes. Ah. Souvent, ils jouaient ensemble.
Bon, entre guitaristes, on s'entraide. Alors, bien sûr, bon là, j'ai fait un jeu de mots facile. Nous ne pouvons pas faire l'impasse sur Joe Pass.
Voilà.
Nom de Joseph Anthony Jacoby Passal Aqua. Il est d'ascendance sicilienne et il est né à New Brunswick en janvier 1929 et il est décédé à Los Angeles en 1994. Alors, Joe Pass, il prend ses premières leçons avec des amis de son père. Ce dernier l'encourage vivement quand il voit que Joe passe l'essentiel de son temps libre à travailler l'instrument. Alors, il pousse à apprendre des morceaux à l'oreille, à jouer des morceaux qui ne soient pas écrits pour la guitare, à faire des gammes et à se passer d'espace libre, c'est-à-dire de jouer des accords entre les notes de la mélodie. Et à l'âge de 14 ans, il joue déjà pour les mariages, des fêtes de quartier, ainsi qu'en tant que soliste dans l'orchestre de Tony Pastor. Il joue avec un groupe très inspiré par le quintet du Hot Club de France, de Django Reinhardt, et il écoute également beaucoup Charlie Christian. Alors, on revient toujours à Charlie Christian, hein, voilà. Bon. C'est la référence pour les guitaristes de jazz. Ouais. Alors là, on va écouter Joe Pass dans un morceau intitulé Django, et où on le retrouve avec Jim Hoggart, Colin Bailey et John Pisano, et donc dans un album qui s'appelle For Django.
Rediffusion d'une émission Principe Actif. Une rediff, quoi. Thank you.
Quel plaisir d'écouter cette composition de John Lewis. C'était le pianiste du Modern Jazz Quartet. C'est pour ça que c'est très doux. Et John Lewis a vécu longtemps en France, dans le sud, près de la Méditerranée, tout ça. Donc il adorait la France. Donc dans toutes ses compositions, il y avait Versailles, Chambord et tout ça. Et donc il avait fait un très bel hommage à Django Reinhardt, à sa façon à lui, et ça donne cette composition où je joue. C'est parfait, quoi. C'est absolument parfait.
Alors, à 20 ans, Joe Pass va aller à New York pour écouter les meilleurs musiciens du moment. Mais à cette époque, il va tomber dans l'engrenage de la drogue. Et pendant plus de 10 ans, jusqu'au début des années 60, il va rester sous l'emprise des drogues. Il va être arrêté plusieurs fois avant d'être admis à Synanon, c'est un centre de désintoxication. Et durant son séjour, il n'a pas arrêté de jouer de la guitare et il enregistre avec un groupe composé de musiciens résidant dans ce centre. Il y avait beaucoup de musiciens.
Ça touche souvent les musiciens.
Le disque s'intitule Sounds of Synanon et les critiques s'extasient sur le jeu de guitare de Joe. Alors, son séjour dans ce centre dure 3 années, quand même, à l'issue desquelles il reprend de pied ferme sa carrière musicale. À sa sortie, il joue dans la région de Los Angeles avec les meilleurs musiciens et est engagé comme guitariste de studio. Il va participer pendant plus de 5 ans à des séances d'enregistrement jusqu'au jour où Norman Granz, producteur international de concerts de jazz, le persuade de le rejoindre et de signer pour son label Pablo. Et donc c'est à cette époque qu'il va commencer sa carrière internationale. Et on va le retrouver notamment aux côtés d'Oscar Peterson, de Nils Henning Ørsted Pedersen, Zoot Sims ou encore Della Fitzgerald. Et là, on vous propose un morceau où il joue en compagnie de Gigi Johnson, un morceau intitulé Blue Bossa qui a été enregistré en 1988. Thank you.
carrément 4 minutes de bonheur avec ce duo. Oh là là, ça c'est des xicos, ça. Au nom de Dieu, nom de Dieu.
Alors, Joe Pass, il joue essentiellement en finger picking, c'est-à-dire avec les doigts, quoi, hein, avec un usage occasionnel du Mediator. Et il va se faire connaître avec une Fender Jaguar, qui se prête pas d'ailleurs particulièrement au jazz. Il va jouer ensuite sur une Gibson ES-175, qu'un médecin fan de son jeu lui avait offert. Et il va devenir l'un des adeptes emblématiques, hein, de ce modèle. Et à la même période, il peut également se produire avec une guitare fabriquée par un luthier new-yorkais d'origine italienne qui s'appelle Jimmy D'Acquisto. Voilà. Alors, il va collaborer aussi avec le fabricant de guitare Ibanez, où il y a donc un modèle qui porte son nom, hein, le Joe Pass modèle JP20 dans les années 80, instrument sur lequel il va jouer pendant dans les années 80. Et Epiphone aussi va créer un modèle Epiphone Joe Pass Emperor 2 en son honneur, et en 94, d'ailleurs peu de temps avant sa disparition. Et ces derniers, dans les dernières années, on peut le voir avec un modèle que Gibson lui a confectionné, une ES-175 à un micro moins épaisse et présentant un cordier en trapèze et non pas zigzag, caractéristique de la première guitare. Et il va, hélas, décéder le 23 mai 1994 d'un cancer du foie. Voilà. Peut-être trop d'abus de toutes sortes.
Voilà, oui, oui.
Alors, pour achever cette émission, eh bien, on va parler de Patrick Bruce Metheny, donc, qui est guitariste et le meneur du groupe, le Pat Metheny Group. Voilà. Donc, il est né en 1954 et il a donc 68 ans. Alors, il va se produire environ sur scène environ 200 concerts par an depuis 1974. Pas mal, quand même. Hein. Faut avoir
la santé quand même. Hein,
ouais. Alors, les critiques de jazz ont souvent scindé son œuvre en deux branches, hein, celle du jazzman et celle du leader du Pat Metheny Group. Au jazz académique ouvert à des expériences variées, ils opposaient un musicien prospectif et plus expérimental. Les récompenses multiples pour l'une et l'autre ne permettent pas de résoudre finalement cette opposition, mais montrent que la reconnaissance des deux facettes du musicien... Pat Metheny lui-même a vigoureusement nié cette dichotomie à plusieurs reprises, estimant que l'ensemble de sa production musicale était au contraire dictée par une exigence musicale continue. Son but est de mettre en lumière différents aspects de sa personnalité musicale, tout en estimant qu'il n'y a aucune différence entre ces différents aspects. Bon, voilà, après, question technique. Alors, il est issu d'une famille de musiciens. Il commence d'ailleurs par la trompette à 8 ans avant de passer à la guitare, vers 13 ans, du fait d'un problème de dentition. Et il a d'abord été un grand fan des Beatles. Ah, on retrouve les Beatles beaucoup. Ah, voilà. Avant que le jazz se révèle à lui quand il découvre, à l'âge de 12 ans, l'album Four and More de Miles Davis. Alors, je regarde quand même. Il nous reste quand même un petit peu de temps. Alors, il fait son lycée dans le Missouri, puis il va entrer à l'université de Miami. Il est âgé de seulement 18 ans et on va en fait lui proposer d'être enseignant. Il devient ainsi le plus jeune professeur à avoir enseigné dans cette université. Découvert par Gary Burton, il entre à 19 ans au célèbre Berklee College of Music où il enseigne dès l'année suivante, devenant alors le plus jeune professeur de l'histoire de l'école. Bon.
Faut dire qu'il est doué.
Génie, quoi.
Qu'il est doué, le mec.
Donc son premier enregistrement est l'album Jaco de Paul Blais, paru en 1974, et sur lequel jouent aussi Jaco Pastorius et Bruce Dittmans. Et de 74 à 77, Gary Burton le prend comme guitariste dans son groupe.
Mais que du beau monde hein, quand même. Hein. Gary Burton, c'est un sacré vibraphoniste.
Donc là, je vous propose de l'écouter avec Johnny Mitchell, Jaco Pastorius, Michael Brecker.
Un des plus grands saxophonistes de la génération.
Lyle May et Don Alias. Voilà. Alors, que je trouve le morceau. Voilà, c'est parti.
Vous mettez Jaco Pastorius le jour où il est en forme à la basse et vous avez ce qu'il y a de plus beau, quoi. C'est plus grand, plus grand bassiste électrique qui ait jamais existé, quoi. Il met tout le monde à la page et alors tout le monde suit. Évidemment, Michael Brecker, il est enchanté d'avoir ce bulldozer derrière. Joni Mitchell, c'est pareil, ils sont tous transcendés. C'est merveilleux. Des trucs, les gens qui ont assisté à ce concert, mon Dieu, ça devait être beau.
Alors,
Même lui, Pat Metheny, il fait des trucs. Oh, il devait être content d'être avec ces monuments.
Donc en 1977, Pat Metheny fonde son propre groupe avec le pianiste Lyle May, qu'il a rencontré d'ailleurs dans le groupe de Gary Burton. Donc le noyau du binôme, c'est Metheny et May. Et à partir de 81, il y a un troisième larron qui arrive, c'est Steve Rudby. On retrouve dans la musique de Pat Metheny de nombreuses influences, le jazz, le folk, le rock, la musique country aussi, la world music, notamment la musique brésilienne, et plus particulièrement celle de Milton Nascimento, la musique classique aussi, Pardon. La plupart des musiciens sont donc polyinstrumentistes, ce qui permet à Metheny et à May d'écrire des pièces aux instrumentations variées et aux arrangements souvent assez complexes. Donc là, je vous propose d'écouter un morceau qui s'appelle Better Days, Ed, enregistré un morceau de l'album Letter from Home, enregistré en 1989.